Oui, Seigneur, merci pour Jean-René qui prend du temps maintenant pour mieux connaître ta parole, pour mieux te découvrir, et parce qu'il va nous en transmettre quelques bribes ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas plus de connaissances, mais nous voulons plus te rencontrer. Seigneur, que tu donnes les paroles à Jean-René pour qu'elle puisse nous atteindre et que tu puisses nous rencontrer là où nous en sommes. Et que tu nous laisses, que nous puissions nous laisser interpeller par ces paroles ce matin. Et nous le croyons qu'elles sont vivantes. Et nous bénissons Jean-René maintenant en ton nom. Amen. À toi, Jean.
Alors, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et un honneur particulier d'être appelé à prêcher la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de la femme adultère en Jean 8, versets 1 à 11. Et peut-être, avant de lire le passage, une petite note. Dans certaines de nos Bibles, vous verrez que ce passage est entre crochets, ce qui signifie que dans beaucoup de manuscrits de l'évangile de Jean, ce récit ne se trouve pas là, dans beaucoup des plus anciens manuscrits. Parfois, on retrouve ce passage plutôt accroché à la fin de l'évangile de Luc ou à d'autres endroits. Ce que ça signifie vraisemblablement, c'est que ce récit a d'abord circulé sur une feuille volante, un peu à part de nos évangiles, et puis que, à un moment, on s'est dit qu'il fallait bien le mettre quelque part, que manifestement c'était un récit qui racontait un événement de la vie de Jésus, un événement authentique qui remontait aux faits et qui n'avait simplement pas été intégré d'emblée dans l'un des évangiles. Donc on l'a mis là parce qu'il fallait le mettre quelque part. Alors je crois que ceux qui ont fait ça ont eu tout à fait raison et qu'on a très bonne raison de penser que c'est un récit authentique. Cela dit, ça veut aussi dire qu'il ne faisait peut-être pas partie de l'évangile de Jean en soi à l'origine. Certains trouvent que son style ressemble plus à Luc, Marc ou Matthieu. Ça veut dire aussi que je ne vais pas particulièrement regarder le contexte dans l'évangile de Jean, mais plutôt prendre ce texte dans le contexte du Nouveau Testament en général. Passer cette petite note, lisons le texte. Donc Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Pas donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors, nous sommes toujours dans cette série de prédications sur les rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous avons des rencontres assez particulières. Nous avons les pharisiens qui viennent à la rencontre de Jésus, mais qui viennent pour le piéger, pour l'accuser, pour lui tendre une embuscade. Et nous avons cette femme qui rencontre Jésus, contrainte et forcée, traînée par des pharisiens qui ne lui veulent que du mal, qui ne la voient presque pas comme une personne, mais plutôt comme un cas juridique épineux pour prendre Jésus au piège. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, un crime grave à l'époque. Dans notre société, on passe facilement par-dessus l'adultère, on prend ça à la légère, on pense que c'est presque normal dans nos médias, dans les séries, dans les annonces de publicité pour les sites de rencontres adultérines. Si, si, ça existe, j'en ai vu à Paris la semaine passée. Mais pourtant, l'adultère était à l'époque grave, est toujours grave. C'est une entorse à un engagement fondamental, celui de la fidélité entre un homme et une femme, qui fait partie de ce que Dieu a disposé à l'origine pour l'être humain. Donc, ce n'est pas une peccadille, et cette femme n'a rien pour sa défense, elle n'a pas de bénéfice du doute, on l'a attrapée sur le fait, rien ne nous dit qu'elle ait quoi que ce soit à dire pour se disculper. Alors on peut se demander, par contre, pourquoi cette femme est la seule à être amenée devant Jésus, parce qu'a priori, pour commettre un adultère, il faut être deux. Et, alors certains pensent que les pharisiens étaient machistes au point d'avoir laissé filer l'homme et d'attraper la femme pour l'accuser. On peut tout aussi bien imaginer que son compagnon d'adultère a simplement été plus leste et plus rapide pour prendre les jambes à son cou lorsque les gardiens des bonnes mœurs sont arrivés. À vrai dire, on ne sait pas. Mais je crois que ce que ça nous montre avant tout, c'est que le souci principal des pharisiens n'est pas l'équité, n'est pas de donner à chacun ce qu'il mérite. Ils ne se soucient pas vraiment du fait qu'il y a une autre personne dans l'affaire qui devrait se trouver là aussi. Par contre, ils ont l'air presque assez satisfaits d'avoir trouvé quelqu'un qu'ils peuvent condamner sans arrière-pensée. Et peut-être que parfois on peut retrouver ce genre d'attitude quand on lit dans les journaux et les magazines des histoires absolument horribles de ce que certaines personnes ont fait. Ben, de trouver que voilà enfin des personnes qu'on peut condamner, qui ont rien pour elles. Et on sent des fois un petit peu mieux d'avoir trouvé quelqu'un qui, là, clairement, est vraiment pire que nous, parce que nous, bien sûr, on a des excuses, alors que ces gens-là, de telles femmes, comme disent les pharisiens, il n'y a rien pour eux. Mais, quoi qu'il en soit, c'est même pas tellement la situation de la femme qui intéresse les pharisiens, c'est de pouvoir prendre Jésus au piège. Et ils essayent de le prendre au piège en lui posant un dilemme, une situation où, d'une certaine manière, toutes les réponses seraient mauvaises. C'est un dilemme à plusieurs facettes. La première facette, relativement externe, c'est un conflit entre la loi de Moïse et les privilèges du préfet romain. Parce que Israël est sous occupation romaine et seul le préfet avait le droit de prononcer des condamnations à mort. Et pourtant, la loi de Moïse dit que l'adultère doit être puni de mort. Alors, si Jésus se prononce pour la condamnation à mort et qu'on lapide la femme, eh bien, on va pouvoir dénoncer Jésus comme un insoumis, un rebelle qui usurpe les prérogatives des Romains. Et là, on pourra être débarrassé de Jésus. Et s'il se prononce contre la loi de Moïse en disant de ne pas condamner cette femme, alors c'est son autorité d'enseignant religieux juif qui va être mise à mal. On pourra dire, voyez, il prend position contre la loi de Moïse, cessez d'écouter cet homme-là. Première étape du piège. Deuxième élément, c'est un dilemme entre le respect de la loi de Moïse et la mission de Jésus-Christ. En Jean 3, 17, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et si donc Jésus se prononce pour la condamnation, eh bien, il prend le rôle qu'il déclare n'être pas venu prendre en venant sur terre. Et il se trahit, et il n'est plus cohérent. Mais, en même temps, Jésus a toujours reconnu que la loi de Moïse était juste et bonne, qu'elle venait de Dieu, qu'elle avait autorité. Et donc, si Jésus prend position contre la loi de Moïse, c'est pas seulement aux yeux des Juifs qu'il perd son autorité, mais c'est par rapport à ce que lui-même a toujours dit et enseigné qu'il se trahit. Deuxième élément du piège, la loi de Moïse ou la mission de Jésus. Et troisième chose, Jésus est venu sur terre révéler son Père, révéler qui Dieu est. En particulier, Jésus révèle Dieu comme un Dieu de justice et un Dieu de miséricorde. Et les pharisiens peuvent aussi espérer prendre Jésus en piège en jouant l'un contre l'autre. Si Jésus condamne cette femme, c'est conforme à la justice de Dieu qui condamne le péché. Mais c'est contraire à sa miséricorde qui veut sauver le pécheur. Et à l'inverse, si Jésus pardonne cette femme, alors il fait, pense-t-on, une entorse à la justice de Dieu. Et donc, les pharisiens pensent avoir là le cas parfait pour que Jésus, d'une manière ou d'une autre, soit perde son autorité en tant qu'enseignant juif, soit puisse être condamné par les Romains, soit renonce à l'autorité de la loi juive, soit trahisse sa mission, ou encore trahisse la justice de Dieu, ou cesse de manifester la miséricorde de Dieu. Alors, face à ce piège, face à ces questions manifestement malveillantes, Jésus commence par écrire sur le sol. Le texte ne nous dit pas ce qu'il écrit, mais je pense que c'est avant tout un moyen de commencer par ne pas prendre en compte ces questions malveillantes qui ne cherchent pas à trouver quelle est la justice, mais à piéger Jésus. Ben, il commence par les ignorer. Mais les pharisiens insistent, ils persévèrent. Alors Jésus leur répond avec ces paroles, avec cette parole, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Alors, en disant cela, Jésus s'appuie sur une exigence de l'Ancien Testament qui disait que lorsque quelqu'un témoignait contre une autre personne dans le cadre d'un procès entraînant une lapidation, c'était les témoins qui devaient jeter la pierre en premier. Cela pour empêcher qu'on puisse accuser quelqu'un et s'en dédouaner en laissant d'autres appliquer la sanction, pour que celui qui apporterait un faux témoignage, eh bien, assume ses actes et porte la responsabilité du geste même de la mise à mort. Mais Jésus pousse plus loin cette exigence en disant, finalement, si vous voulez témoigner contre cette femme comme étant une femme pécheresse, eh bien, il vous faut vous-même être sans péché. Et en un sens, là où les pharisiens voulaient prendre Jésus au piège en s'appuyant sur la justice de Dieu, eh bien Jésus répond en demandant plus de justice encore, en plaçant la barre de la justice encore plus haut, en disant « Il vous faut vous-même être juste si vous voulez pouvoir condamner cette femme. » C'est dans la lignée de ce qu'il dit dans le sermon sur la montagne, que si quelqu'un veut pouvoir enlever la paille de l'œil d'un autre, il doit enlever d'abord la poutre de son propre œil. Et je crois que cela trahit aussi quelque chose de l'attitude des pharisiens, qui se considéraient certainement comme un groupe de personnes juste devant Dieu, confrontées à une femme pécheresse. Et où leur question c'était, nous qui sommes justes, que devons-nous faire face à cette femme qui a péché? Et Jésus attaque cette attitude-là, en les forçant à se positionner, à se demander « Est-ce que vous êtes vraiment si juste ?» Et je crois que pour nous-mêmes, ça nous met vraiment en garde contre l'attitude de penser que nous, en tant que personne, ou en tant que groupe, en tant qu'Église, nous sommes des justes, des personnes qui pratiquons ce qui est bien, et qui sommes donc en position de juger tout le mal qui se fait autour de nous. Et cette attitude de Jésus rejoint aussi tout à fait ce que l'apôtre Paul écrit en Romains 2, verset 1. Où il écrit « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Nous sommes tous des pécheurs, et si nous nous mettons à condamner les autres pour leurs péchés, eh bien c'est aussi un jugement contre nous-mêmes que nous prononçons, parce que nous sommes nous aussi des personnes qui pratiquent le mal. Et donc, face à cette exigence de justice que Jésus pose, les pharisiens réagissent en partant, les uns après les autres, à commencer par les plus âgés. Le texte nous dit « accusés par leur conscience ». Parce qu'ils se rendent bien compte que oui, ils sont eux-mêmes pécheurs. Et c'est vrai que là aussi, Jésus s'était mis à écrire sur le sol après avoir prononcé ces paroles. À nouveau, il y a beaucoup de spéculations sur ce qu'il aurait écrit. Certains pensent qu'il écrivait les 10 commandements, le résumé des exigences de Dieu pour montrer face à quoi les pharisiens devaient se positionner. Certains pensent qu'il était pratiquement en train d'écrire les péchés de chacune des personnes présentes pour qu'ils s'en rendent bien compte. Le texte ne nous donne pas cette précision et je pense que cette suggestion-là va un peu loin. Mais voilà, on n'a pas forcément à savoir ce qu'il écrivait puisque le texte n'a pas jugé bon de nous le dire. Mais ce qui, pour moi, est clair, c'est que s'il est baissé en train d'écrire sur le sol, il n'a pas les regards braqués sur les pharisiens pour bien les accuser. Non, il les laisse, face à leur conscience, se positionner face à ce qu'ils savent en eux-mêmes. Et bien, les pharisiens s'en vont, ce qui montre qu'ils sont conscients de leur péché. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce sont les plus âgés qui s'en vont les premiers ? Peut-être qu'avec le temps, avec l'âge, ils sont devenus plus conscients de leurs fautes, qu'ils sont plus rapides à s'en rendre compte. Ou peut-être que les plus jeunes sont dans l'expectative de voir comment les plus âgés vont se comporter face à cette exigence imprévue de Jésus, dans l'idée du respect qu'on donnait à l'époque aux personnes plus âgées, plus sages, plus expérimentées. Et donc, un respect que peut-être on ferait bien de retrouver de nos jours, petite note au passage. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a aussi un côté où chacun de ces pharisiens sait en lui-même qu'il est coupable, mais pense que dans tout ce groupe de bons pharisiens respectueux de la loi, il y en a bien un qui va pouvoir commencer la lapidation. Et donc, il y a ce moment un peu de flottement où petit à petit, ils s'en vont tous. Et je crois que ces pharisiens sont aussi un petit peu piégés dans leur propre système, dans leur système d'appartenir à un groupe de personnes dont l'engagement est de respecter au plus près la loi de Dieu, qui essaye d'être plus juste que le reste du peuple d'Israël, le reste des habitants du pays, et donc, bon, et des nations païennes, on n'en parle même pas. Donc, en se définissant leur identité comme des personnes qui pratiquent la justice, eh bien, je crois que, d'un certain côté, ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont pécheurs. C'est trahir leur identité. Et justement, il y a ce côté où chacun pense que voilà, eux ont encore peut-être des problèmes à régler, mais le groupe en général est juste et tout va bien. Et la question de Jésus, d'une certaine manière, dénonce et trahit les failles et l'hypocrisie du système. Mais il faut aussi relever que les pharisiens, s'ils sont conscients du péché, n'arrivent pas encore vraiment à ce qu'on appelle la repentance. Parce que leur conscience du péché les conduit à s'éclipser pour ne pas justement devoir se tenir là et dire « Non, on ne peut pas ». Ils s'enfuient. Alors que la vraie repentance consiste à venir à Jésus pour être pardonné et être transformé. Je crois qu'on peut tous être confrontés à deux sortes de culpabilité, deux sortes de réactions face à nos propres fautes. Soit la réaction qui consiste à fuir loin de Dieu pour ne pas être confronté justement à la réalité du mal que nous faisons, soit à venir près de lui en reconnaissant que oui, nous sommes pécheurs et que non, nous n'avons pas de solution, et pour entendre ce que lui a à dire là-dessus. Et je vais me permettre de dire une chose que le texte ne dit pas expressément, mais j'imagine que si l'un des pharisiens était resté là, non pour lapider la femme, mais pour entendre ce que Jésus pouvait avoir à dire face à son péché à lui ou face au péché de la femme, eh bien il aurait très certainement entendu les mêmes paroles que Jésus dit à la femme adultère. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Mais voilà, les pharisiens ont tous choisi la suite, ils se sont tous éclipsés. Jésus se retrouve seul face à cette femme adultère. Il n'y a donc plus deux témoins qui puissent accuser cette femme pour la condamner. Et la loi de Moïse exige deux témoins pour condamner un coupable. Donc Jésus n'est plus tenu par la loi de prononcer une condamnation sur cette femme. Alors, bien sûr, Jésus pourrait la condamner, parce que lui est cet homme sans péché, parfaitement juste, et qu'il sait tout, il sait ce que cette femme a fait, et s'il prononçait une condamnation, sa condamnation serait juste. Mais conformément à sa mission et conformément à sa grâce, eh bien, il fait grâce à cette femme adultère. Mais il nous faut bien noter aussi qu'il gracie cette personne, mais qu'il n'innocente pas son acte. S'il dit « va et ne pêche plus », c'est bien qu'il y a là un péché. Et quand Jésus dit « je ne te condamne pas », l'original grec utilise un verbe qui a un sens plutôt juridique. C'est la condamnation à subir une sanction en conséquence d'une faute. Donc Jésus, en disant « je ne te condamne pas », ne dit pas « tu n'as rien fait de mal ». Il dit « je ne te condamne pas à subir la sanction que mérite ta faute ». Et donc la grâce que Jésus donne n'est pas destinée à la licence, n'est pas destinée à continuer de plus belle à pécher, mais est destinée à changer, destinée à ce que cette femme puisse sortir de son comportement pécheur. Et il nous faut bien comprendre que, oui, nous avons besoin d'être transformés par rapport au péché, mais que ce n'est pas la condamnation qui transforme. C'est la rencontre avec Jésus-Christ et c'est la parole que le Christ nous adresse. Et dans un sens, ces pharisiens, sans aucun amour, sans aucun respect pour cette femme, ont finalement fait pour elle le mieux qui pouvait être fait en l'amenant devant Jésus. Alors, bien sûr, ce n'est pas un modèle sur la manière dont nous pouvons amener des gens à Jésus. Et bien au contraire. Mais en tant que docteur de la loi, pharisien, défenseur de la loi, je crois qu'ils ont incarné le rôle que la loi de l'Ancien Testament peut avoir pour nous, c'est-à-dire mettre en évidence combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes insuffisants face à Dieu et combien nous n'avons pas d'excuses. Et ben, cette femme, une fois amenée face à Jésus avec son péché au grand jour, eh bien, elle n'a plus d'autre possibilité que de recevoir les paroles de Jésus. Et ce qui transforme, c'est la parole de Jésus-Christ qui nous est adressé. Et on peut avoir tendance, en entendant « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », d'avoir d'un côté une parole de grâce et de pardon qui libère, et d'un autre côté un ordre et une exigence qui vient un peu compenser cela. Mais en fait, je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. Je crois que ce sont deux paroles de grâce. Parce que la « va et ne pêche plus », ce n'est pas seulement un ordre, c'est aussi un envoi. La parole de Dieu est efficace. Ce que Dieu dit arrive. Donc quand Jésus dit « va et ne pêche plus », je crois qu'il donne à cette femme la force et la capacité de changer et d'être transformée. Et c'est une parole de grâce, parce que le péché n'est pas une chose bonne et agréable dont Dieu nous prive à cause d'exigences un peu arbitraires selon ce qu'il lui chante. Le péché est une chose mauvaise qui nous détruit, une chose amère qui nous sépare de Dieu. Et donc, dire, ordonner, permettre à cette femme de changer par rapport à son péché, c'est une grâce tout aussi grande que celle de lui dire qu'elle n'est pas condamnée. Alors pour nous, aujourd'hui et maintenant, qui n'avons pas Jésus-Christ debout à côté de nous pour nous parler, comment recevoir cette parole de Christ qui nous transforme? Alors, nous la recevons dans la parole de Dieu, dans la Bible, quand nous la lisons, quand nous l'écoutons, quand nous la méditons. Cette parole qui est vivante et qui est efficace nous transforme quand nous nous y confrontons. Et nous l'entendons aussi d'une autre manière, dans le cadre du culte, lorsque la parole est prêchée. C'est la parole qui est rendue vivante par le moyen de la personne qui prêche le dimanche matin. Et c'est une grande responsabilité et c'est une grâce que Dieu permette, cela. Ce n'est pas l'autorité du prédicateur qui donne de l'efficacité à sa parole, mais c'est la parole de Dieu elle-même et l'Esprit de Dieu qui permettent de la rendre actuelle et efficace aujourd'hui. Et puis, ces mêmes paroles, Dieu nous les communique aussi au travers des signes de la Sainte Cène. Parce que dans la Sainte Cène, Jésus nous dit « Je ne te condamne pas » parce que lui-même a pris sur lui la condamnation à la croix. Et nous le rappelons à la Cène. Et la Sainte Cène, Jésus, se fait aussi notre nourriture spirituelle pour avoir la force d'être transformé et changé. Et si nous répétons cette Sainte Cène de semaine en semaine, c'est que nous avons constamment besoin de recevoir ces paroles de pardon et de recevoir cette force pour être transformé, parce que nous sommes toujours sur ce chemin-là. Alors, pour conclure cette prédication, j'aimerais souligner trois aspects de ce que ce texte nous apprend et ce à quoi il peut nous exhorter. Pour notre vie d'Église, pour l'attitude de Dieu face à nous et pour notre attitude face à Dieu. Alors, rapidement sur l'Église, je crois que ce texte nous invite à avoir une grâce qui soit sans complaisance, c'est-à-dire un pardon pour les personnes qui ne soit pas une acceptation du péché et des mauvais comportements comme une chose normale et sans gravité. Mais aussi que notre discipline soit sans condamnation. C'est-à-dire que si nous sommes dans la situation d'aller parler avec une personne qui a eu un comportement qui l'éloigne de Dieu, un comportement qui n'est pas juste face à la Bible, eh bien, que nous le fassions en prenant nos responsabilités, mais pas pour condamner cette personne, pas pour la détruire, mais pour l'aider à se relever et pour l'aider à être libéré de ce péché qui nous enchaîne et nous éloigne de Dieu. Ensuite, sur l'attitude de Dieu par rapport à nous, je crois que ce texte nous montre, c'est que si nous nous appuyons sur notre propre justice, si nous pensons comme les pharisiens, être des gens bons, droits, qui faisons ce qui est bien, alors la justice de Dieu est plus grande. Notre justice ne fait pas le poids face à la justice de Dieu. Nous ne serons jamais assez justes pour que ce soit nos actes qui nous permettent de nous approcher de Dieu. Mais à l'inverse, si nous sommes écrasés par nos fautes, quelle que soit la gravité de nos actes, même si comme pour cette femme adultère, il n'y a aucune excuse, aucune circonstance atténuante, même si tout est connu publiquement, la miséricorde de Dieu est plus grande. Et la question sera aussi de la manière dont nous présenterons devant Jésus, devant Dieu. Est-ce que nous essayerons de nous tenir devant lui comme des justes, ou est-ce que nous nous inclinerons comme des pécheurs qui ont besoin de recevoir sa grâce? Et si les pharisiens essayaient de prendre Jésus au piège en opposant en lui la justice et la miséricorde, je crois que ce texte nous démontre, comme toute écriture, c'est que la justice et la miséricorde de Dieu ne s'opposent pas, mais s'accordent. Ce ne sont pas deux choses différentes en Dieu qui seraient en combat, mais cela fait partie de la personne de Dieu, et Dieu ne se contredit pas. Dieu est un, et la miséricorde de Dieu et sa justice travaillent entièrement ensemble. Et dans ce passage, Dieu sauve la femme, non en laissant de côté la justice, mais en demandant plus de justice que ce que les pharisiens étaient prêts à mettre en œuvre. Et aussi, s'il fait miséricorde à cette femme, c'est qu'il sait qu'il va accomplir toute justice, et que le châtiment pour les fautes de cette femme, comme pour les nôtres à tous, eh bien, il va les prendre sur lui à la croix. Et quant à nous maintenant, si nous sommes comme les pharisiens, coincés avec des péchés qu'on n'ose pas s'avouer, qu'on n'ose pas reconnaître parce que ça ne fait pas partie de notre identité et du groupe auquel on appartient, alors la solution est de venir à Jésus. Et ça peut nous arriver, même en tant que chrétien, depuis beaucoup d'années, même si on a compris la croix et la grâce, eh bien, de se dire que en tant que chrétien, on devrait être au-delà de ça, on devrait ne plus faire telle ou telle chose, et est-ce qu'on est vraiment encore digne d'être chrétien avec ce qu'on pratique? Et en un sens, c'est vrai, le péché n'est jamais à sa place, n'est jamais normal, et oui, on ne devrait plus pécher. Et en même temps, le fait est qu'on continue à le faire, et que nous sommes tous parfois dans cette situation. Parfois, nous sommes tous constamment dans cette situation. Et on peut avoir des fois le piège dans notre milieu de voir la grâce comme une porte d'entrée. On devient chrétien en recevant le sacrifice de Jésus et son pardon pour nos fautes. Et après, une fois qu'on est dans l'Église et qu'on doit se sanctifier, qu'on doit changer notre comportement, alors on s'appuie sur nos efforts et on se met des exigences à nous-mêmes, voire on se met des exigences les uns aux autres pour progresser face au péché, et on oublie la grâce. Alors que la grâce est nécessaire non seulement pour être pardonné de nos péchés, mais aussi pour être transformé. Alors, venons à Jésus pour entendre tout à nouveau « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et si à l'inverse, nous sommes comme la femme adultère, avec un péché ou une faute qui est visible pour tous, peut-être même reconnu dans l'Église, si nous sentons sous la condamnation des uns et des autres, si nous sentons condamnés par nous-mêmes ou par la société, alors, eh bien là aussi, la solution est la même. Il nous faut venir à Jésus, venir devant lui, en reconnaissant nos fautes, pour entendre ses paroles. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et je crois que c'est vraiment ce que nous avons à entendre, à recevoir et à vivre. Et je vous propose de prendre 2 minutes dans le silence pour que chacun puisse se positionner dans la prière face à Dieu, face à Jésus-Christ, venir à Jésus, reconnaître ses fautes. Et si certains sentent qu'il y a un point particulier à cette démarche, qu'ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, et bien qu'ils viennent après le culte auprès du pasteur, d'un des anciens ou d'un autre chrétien en qui ils ont confiance pour faire cette démarche dans la prière et avancer là-dedans. Alors, prions chacun en nos cœurs. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu promets ton pardon et que tu le donnes à ceux qui viennent à toi. Merci parce que tu ne nous condamnes pas quand nous venons à toi en reconnaissant nos fautes. Merci parce que tu nous ordonnes, que tu nous engages à ne plus pécher. Et merci parce que tu accomplis ta parole en nous. Agis en nous par ton esprit pour nous transformer à ton image, pour nous permettre de progresser dans la sanctification, de progresser dans la ressemblance à toi. Merci parce que tu nous fais cette grâce d'être pardonné. Merci parce que tu nous fais cette grâce d'être transformé. Et permets-nous de toujours, toujours et toujours revenir à toi pour recevoir ta grâce. Amen.